Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sa Majesté le Roi Louis XIV.
RTL.
Voilà comment un enfant de 4 ans et demi seulement se retrouve à la tête de la France. Son règne va durer 72 ans et va changer la vie des habitants de notre pays.
Jusqu'à 22h.
Des changements qui impactent encore aujourd'hui notre quotidien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il voulait être le plus grand roi de l'histoire. Pour cela, Louis XIV n'a reculé devant aucune folie. On part se balader dans sa mégalomanie et son génie aussi, bien sûr, avec Cyrielle Lemoigne. Bonsoir.
Bonsoir, Sidonie.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Ça m'intéresse, Histoire, qui consacre un dossier passionnant au roi Soleil. Alors, pour commencer, on va faire un petit état des lieux de sa puissance pour en mettre quand même plein les yeux de nos auditeurs. Nous sommes au XVIIe siècle, la France de Louis XIV, c'est d'abord le royaume le plus peuplé d'Europe.
Oui, c'est ça. La France de Louis XIV, c'est 18 millions d'habitants, ça représente à peu près le quart de la population européenne.
C'est aussi la première puissance d'Europe et du monde, la France.
Oui, parce qu'en fait, c'est un empire qui s'étend bien au-delà des mers. En Amérique, le roi Louis XIV règne sur le Canada, le Mississippi, la Louisiane. Donc, c'est autant de territoires qui font barrage au Royaume-Uni. Et c'est aussi les Antilles et la Guyane.
Et puis, le français devient la langue que tout le monde parle au XVIIe siècle.
Eh oui. Dans les cours européennes, il est alors de bon ton de parler français. Et donc, on va lire les frasques de la cour de Louis XIV en français dans des petits périodiques qui s'appellent le Mercure Galant ou la Gazette de France.
Ah, ça avait pu rester comme ça. On ferait que des annonces en français, Thomas.
C'est une langue parlée encore énormément partout dans le monde, le français. Alors, quand on pense Louis XIV, on pense le monarque absolu. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Cyrielle Lemoigne? Ça veut dire que toutes les lois passent par lui, viennent de lui?
Oui, alors le roi, c'est la loi. Concrètement, Louis XIV va régner de façon très personnelle. Il est aidé par quelques conseillers à sa botte, mais tout passe par lui. Il concentre tous les pouvoirs. Lui, il décide et les autres appliquent les décisions.
Alors, la grande puissance de Louis XIV, ça passe aussi par une armée, forcément. Oui. À quel point est-elle imposante?
Alors, c'est assez impressionnant. Au début du règne de Louis XIV, en 1650, l'armée française compte à peu près 40 000 soldats. 60 ans plus tard, en 1710, il y en a 380 000. Ça fait à peu près 10 fois plus.
Et ça a un impact aussi sur les finances royales et sur les finances du pays. On en parlera forcément. Un petit mot de Versailles. On va tout à l'heure se faufiler dans les couloirs du plus beau palais d'Europe. Mais Versailles, c'est un signe de puissance, évidemment.
Oui. Alors, pour vous donner une idée, pour enserrer Versailles, le Trianon et les parcs, on a construit un mur d'enceinte de 42 km. Donc, ça donne une idée de la grandeur de ce palais.
On peut faire un petit marathon pour faire le tour du parc du château de Versailles.
Vous qui aimez bien courir, oui. Mais pas après les œufs. Cyrielle Lemoigne, Louis XIV a régné 72 ans. Quel est le secret de sa longévité? C'est sa toute puissance, justement? Il ne partage pas?
Alors oui, il est tout puissant. Son secret à lui, c'est qu'il est... Dans ses écrits, il le dit lui-même, je suis le plus grand roi du monde. Donc Louis XIV...
Il y croit déjà.
Et c'est le roi mégalomane. Hein, et dans le mot qui revient le plus dans ses écrits, c'est la gloire. Il est mégalo, il a un délire des grandeurs, il doute de rien et surtout pas de lui. Donc en fait, sa stratégie à lui, c'est d'écraser tout ce qui s'oppose à lui. Et son deuxième secret, c'est que c'est un homme qui ne craint pas la solitude. Et donc... L'amour de la solitude et la mégalomanie, c'est un cocktail super pour vous forger un homme au tempérament bien trempé, un leader né.
72 ans de règne, ça veut dire qu'il a commencé à quel âge?
5 ans. Il monte sur le trône à 5 ans. Son père, Louis XIII, meurt assez rapidement et donc à 5 ans, il est désigné roi.
Mais c'est pas lui qui règne.
Non, c'est pas lui qui règne.
Comment ça fonctionne alors le royaume de France à l'époque?
Alors effectivement, c'est lui le roi de France, mais sa mère Anne d'Autriche, aidée par le cardinal Mazarin, ce sont eux qui ont réellement les rênes du pouvoir.
Et puis dès sa tendre enfance, Louis XIV est choyé. C'est le petit enfant chéri, c'est ça?
C'est le petit chouchou. Alors, faut se rappeler que donc ses parents, Louis XIII et Anne d'Autriche, sont restés 23 ans à l'attendre. Pendant 23 ans de mariage, ils n'ont eu aucun enfant. Donc, quand Louis XIV naît, son père a déjà 37 ans, c'est un roi fatigué et malade. On sait forcément que Louis, le petit Louis Dieudonné, ça veut dire le don du ciel quand même, hein, donc le petit chouchou, on sait forcément qu'il va monter sur le trône. Donc, effectivement, c'est un roi chouchouté, choyé, qui va faire toutes les visites de troupes, les réceptions ambassadeur et qui apprend très tôt son rôle.
Et donc il est forcément Louis XIV toujours en représentation. Sa vie dès son plus jeune âge, dès ses 5 ans, c'est de se présenter, d'être admiré et peut-être d'admirer aussi, je ne sais pas.
Oui, alors il est admiré beaucoup, il est tout en contrôle. C'est un petit enfant qui est tout en contrôle, qui d'ailleurs du coup n'a pas beaucoup d'amis parce qu'il les effraie, il adopte une démarche sereine, droite, il veut vraiment donner très tôt l'image d'un homme en contrôle.
Comment Louis XIV devient l'un des plus grands rois de l'histoire, on vous raconte sa success story ce soir sur RTL dans la curiosité.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Tout ce qu'il faut savoir sur Louis XIV, c'est le dossier passionnant du nouveau Ça m'intéresse Histoire. Cyrielle Lemoine, vous travaillez à Ça m'intéresse Histoire. Pour bien comprendre comment Louis XIV est devenu le roi soleil, l'un des plus puissants monarques de son siècle, il faut remonter à son enfance. Il y a un événement qui va forger son caractère, c'est la Fronde, 1648. Il a 10 ans. C'est quoi la Fronde? Qu'est-ce qui se passe?
Alors la Fronde, c'est une grande révolte qui va secouer la France pendant 5 ans, de 1648 à des 10 ans de Louis XIV à ses 15 ans. Mmh. Et donc, c'est une révolte des parlementaires, des nobles, des bourgeois et du peuple qui refuse la politique fiscale et la pression fiscale de Mazarin. Donc la France est sans dessus-dessous, c'est un climat de guerre civile et des affrontements très violents sur le terrain. Et la cour, Louis XIV lui-même est menacé. À l'époque, Versailles n'existe pas, donc la cour est à Paris, au Louvre.
Au Louvre.
Et voilà, et donc la cour, Anne d'Autriche et Louis XIV sont obligés à plusieurs reprises de faire leur bagage en catimini et de s'échapper pour gagner d'autres résidences royales.
Ça veut dire qu'il est exilé dans son propre royaume, c'est ça?
Ouais.
Donc symboliquement, ça n'est pas neutre et ça marquera sa jeunesse. Et donc, il y a quoi? Il y a des mots qui deviennent majeurs, qui vont l'accompagner pendant tout son règne?
Oui, il est vraiment traumatisé. Alors, à partir de la Fronde, les historiens considèrent qu'il va avoir en horreur l'insubordination. Le désordre, c'est pas pour lui, il veut que l'ordre règne. Et deuxième chose... Il a à peine 10 ans. Quand ça se termine, il a 15 ans. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, la majorité royale, c'est 13 ans. Donc, il est théoriquement en âge aussi de régner. Et deuxième chose, il va développer une soif du pouvoir absolu. Pour lui, le pouvoir, ça ne se partage pas. Ça s'exerce tout seul.
Et une méfiance aussi. Il y a peut-être une forme de parano dans son personnage.
Ouais,
il est
limite parano. Alors, rappelez-vous, il aime beaucoup la solitude et il déteste les autres. Ça aussi, ça vient de son enfance.
Alors, Cyrielle Lemoine, vous nous décrivez un Louis XIV sérieux, qui n'a pas beaucoup de petits copains, qui ne veut pas partager.
C'est pas une jeunesse très gaie.
Non, c'est pas fun. Mmh. Et pourtant, il est perçu par la cour comme un ado attardé. Ça veut dire quoi? Qu'il a les cheveux longs, qu'il range pas sa chambre et,
Il a sûrement les cheveux longs, avec la perruque, c'est un peu le look.
Pourquoi on le perçoit comme ça?
En fait, il a lui-même forgé ce personnage. En fait, pendant la Fronde, il a un peu négligé les sciences politiques et c'est pas un brillant élève, clairement.
Il a pas fait Sciences Po?
Non. Lui, c'est plutôt la Starac. Hein. Il préfère chanter, danser, jouer de la guitare, jouer de la comédie. C'est vraiment son truc. Ce qui fait qu'effectivement, on le prend pour un ado attardé et même ses camarades, qui eux sont très sérieux, le trouvent un peu balourd, un peu pâteau et il n'a pas vraiment d'amis.
Alors, il a 15 ans, c'est cette image d'ado attardé. Quand est-ce que l'animal politique va se révéler, va apparaître?
Alors, le tournant, c'est le Conseil des ministres du 10 mars 1661. En fait, le cardinal Mazarin vient juste de mourir. Et le cardinal Mazarin, c'est vraiment le mentor de Louis XIV. En 1661, il a 22 ans et il décide, le lendemain de la mort de Mazarin, de réunir le Conseil des ministres. Première chose, il n'invite pas sa mère, qui était quand même la régente jusqu'ici.
Donc
Anne d'Autriche est courroucée. Elle est complètement outrée. Deuxième chose, il refuse de nommer un premier ministre. Alors là, c'est un scandale. C'est une première en France. Les rois ont toujours régné avec un premier ministre. Non, lui, il décide que toutes les décisions devront passer par lui. Il va simplement se faire aider par une garde rapprochée de 3 secrétaires d'État qu'il va choisir à sa botte, qui n'ont pas beaucoup d'ambition, qui sont des hommes un peu de paille et qui, en gros, lui mangeront dans la main.
Et qui ont quoi? Chacun un domaine de compétences? Il y en a un qui est chargé des finances
Voilà, c'est ça. Chacun son domaine de compétences. sens précis et surtout, personne ne prend de décision. C'est-à-dire qu'ils rendent des rapports, ils vont suggérer au roi, mais dans les apparences, c'est toujours le roi qui prend la décision et eux qui les appliquent.
Donc il n'a que 22 ans quand il marque comme ça son pouvoir. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il l'avait peut-être anticipé dans une réflexion avec Mazarin dans les années qui ont précédé.
Exactement, c'est un animal politique. Hein.
Ouais. Mazarin, c'était son précepteur, vous disiez mentor, il lui a...
C'était son mentor, c'était donc il gérait la France au moment de la régence d'Anne d'Autriche,
ouais.
Et c'était vraiment son mentor, c'est-à-dire que quand Louis XIV a 11 ans, Mazarin va l'emmener sur un champ de bataille, sur une forteresse qui est située sur la Saône, et Mazarin va prendre des précautions, c'est-à-dire qu'il va annoncer aux belligérants la visite de Louis XIV, et là Louis XIV ne craint rien, puisque tout le monde va arrêter les tirs, suspendre les tirs, et en fait Louis XIV apprend sur le tas son métier.
Alors Louis XIV prend le pouvoir, il a 22 ans et en gros personne n'y croit, tout le monde dit attendez, il y a trop de boulot, il va se planter, c'est
ouais,
sûr.
Et puis c'est l'ado attardé, rappelez-vous, hein, donc on n'y croit pas trop, on croit à un caprice vraiment, et puis finalement il tient le coup, mais il se rend bien compte qu'on ne prend pas super au sérieux quand même.
Et ça l'énerve. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait pour marquer son territoire Louis XIV, pour montrer que c'est vraiment le monarque absolu?
Alors Louis XIV va se dire qu'il faut qu'il trouve une victime expiatoire, un sacrifice, quelqu'un qu'il sacrifiera pour montrer qu'il est vraiment très puissant et très méchant. Et donc Colbert va lui suggérer de sacrifier Nicolas Fouquet, qui est un des hommes de sa garde rapprochée.
Et on redit en un mot qui est Colbert.
Alors Colbert, c'est donc un des conseillers de Louis XIV.
D'accord.
Et Nicolas Fouquet, c'était anciennement le surintendant des finances sous Mazarin, donc aussi une des personnes de la garde rapprochée. Colbert et Fouquet ne s'aiment pas du tout, donc c'est calculé tout ça.
Donc Colbert suggère de virer Nicolas Fouquet, c'est ça?
Ouais. Et de provoquer sa chute. Alors en fait, deux mois après le fameux Conseil des ministres dont on a parlé tout à l'heure, ils vont tout simplement l'accuser de s'enrichir aux dépens de l'État. Parce que Nicolas Fouquet, il a un défaut, c'est qu'il confond souvent les caisses de l'État avec ses propres caisses.
Ah, c'est marrant, dommage. Ça existait déjà. Voilà, on dirait le management par la peur, pour employer des termes d'aujourd'hui. En tout cas, ça y est, Louis XIV a imposé son pouvoir sur la France, sur la cour. On va vous raconter la suite de son règne, démonstration de force permanente. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sa Majesté le roi Louis XIV.
Louis XIV meurt en 8 jours, à l'âge de 77 ans.
Jusqu'à 22h.
Malgré une fin de règne calamiteuse, l'histoire gardera de lui le souvenir d'un monarque d'exception qui a révolutionné son époque et nous a légué un héritage hors du commun.
Curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nous sommes absolument éblouis par cette histoire. Bienvenue au siècle du Roi Soleil avec Cyrielle Lemoyne, journaliste. À Ça m'intéresse histoire, on vous raconte un petit peu les dessous de la fabrique d'un grand roi. Alors, vous l'avez expliqué, Cyrielle, Louis XIV a grandi dans la représentation et l'égotisme. Il est devenu roi à 5 ans, mais il a vraiment régné à partir de 22 ans. Et son obsession, c'était de diriger tout seul et d'en mettre aussi plein la vue, de plaire. Et notamment grâce à Versailles. C'est quoi Versailles au tout début?
Versailles, c'est rien. C'est un pavillon de chasse que Louis XIV a hérité de son père. Et voilà, c'est un pavillon de chasse perdu au milieu des marais et de la forêt.
Et il décide d'en faire
le plus grand palais d'Europe, tout simplement. Parce que comme il se considère comme le plus grand roi du monde, il lui faut le plus grand palais au moins d'Europe.
Et là, c'est le palais de tous les records, c'est ça? Le nombre de litres d'eau, par exemple, des bassins est absolument... incroyable.
Alors c'est incroyable, pour faire fonctionner les fontaines et les bassins, il faut 12 000 mètres cubes d'eau. On ne se rend pas bien compte, mais on considère à l'époque qu'il faut creuser un long canal de 39 km, le canal de l'Eure, pour détourner les eaux et alimenter les bassins. Et donc pour ce faire, Louis XIV va demander à son architecte Vauban de mobiliser 22 000 soldats qui vont essayer de construire un aqueduc de 5 km. 6 000 d'entre eux vont mourir du paludisme, parce qu'à l'époque il y a le paludisme au nord de la France. Et finalement, on ne sait pas pourquoi, Louis XIV décide d'arrêter la construction du canal. Donc ils sont morts pour rien.
Sur un coup de tête, voilà. En quelque sorte.
Et Versailles, c'est ça.
Ça prendra combien de temps la construction de Versailles? C'est un chantier gigantesque.
C'est un chantier gigantesque, c'est plusieurs dizaines d'années. Et c'est au moins 30 000 ouvriers chaque jour pendant 25 ans.
Et
c'est
ça
un chantier de 25 ans.
Tous les jours aussi, ça, Louis XIV. Il va sur le chantier, il va surveiller son palais, il laisse rien passer, c'est ça?
Oui, il annote les plans, il change le dessin des fontaines. Et une fois que Versailles sera fini, c'est lui-même qui fera la visite guidée aux têtes couronnées. René. Il dira comment il faut regarder les fontaines, quelle perspective il faut adopter. C'est vraiment son bijou, son bébé.
Louis XIV a une devise, on peut la rappeler.
Oui, alors c'est Nec pluribus impar, avec l'accent latin. Ça veut dire il pourrait régner sur plusieurs mondes.
D'accord, donc ça marque l'amplitude, l'ampleur de son ambition.
D'où son nom, j'imagine, le roi soleil.
Oui, parce que justement, un de ses symboles, c'est un soleil au-dessus d'un globe.
Et ça lui vient très vite pendant son règne, de mettre en avant cette devise, ce symbole du soleil.
C'est immédiat finalement, c'est dès sa prise de pouvoir personnel en 1661, quand il évince sa mère, il prend cette devise et cet emblème et ça y est, il enfile le costume du roi.
Et donc c'est un message à destination de qui? Pas seulement des Français.
Du monde entier, puisque il a pratiquement que des ennemis en Europe, finalement. L'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, le Saint-Empire romain germanique, l'envie, le jalouse et lui font la guerre.
Et donc, quand il décide de construire Versailles, c'est parce qu'il sait comment sont logés ses concurrents royaux, si j'ose dire?
Bien sûr, oui. Il sait très bien à qui il s'adresse. Il veut en mettre plein la vue. Il y a des ambassadeurs de Perse qui viennent voir Versailles. On vient du monde entier pour voir ce bijou d'architecture.
Alors, il y a une autre manière d'en mettre plein la vue, évidemment, pour Louis XIV. C'est de guerroyer. Il adore la guerre, Louis XIV.
Il adore ça. Sur 72 ans de règne, Louis XIV va passer 33 années à faire la guerre.
Mais il y va.
Il
assiste au combat.
Bien sûr. Il va sur les champs de bataille. Il adore ça. Il choisit en général une colline où il peut bien voir ce qui se passe. C'est un petit peu ses petits soldats de plomb, sauf que c'est des vrais gens qui meurent vraiment. Mais il se déplace vraiment. On sait qu'il va aller en Hollande, qu'en 1672, sa femme va assurer la région parce qu'il est sur place, c'est sa vraie passion.
Et au fond, son rêve de régnant, c'est quoi? C'est de pouvoir régner sur la France et l'Espagne, c'est
ouais.
ça?
Vous vous rendez compte, la France et l'Espagne, c'est deux empires coloniaux colossaux. Il y a toutes les possessions d'Amérique. Si vous ajoutez les unes aux autres, ça vous fait un empire énorme. Et donc, effectivement, il va presque toucher du doigt ce rêve quand l'héritier du trône d'Espagne, le roi Charles II, va mourir en 1700 sans héritier mâle. Et là, dans son testament, il va désigner un homme, le petit-fils de Louis XIV, Philippe, qui va devenir Philippe d'Espagne.
Donc il y a une espèce de consanguinité entre les deux royaumes.
Les Bourbons d'Espagne, en fait, c'était les Habsbourg qui meurent avec Charles II, et les Bourbons de France vont devenir les Bourbons d'Espagne.
Louis XIV meurt en 1715, à 77 ans. Qu'est-ce qu'il dit sur son lit de mort à son arrière-petit-fils, c'est ça ?
Son arrière-petit-fils, oui. Donc, il fait venir le futur Louis XV à son chevet. Et là, il lui dit « Mon petit, tu vas devenir un grand roi. » Et il lui conseille de ne pas faire la guerre. Il lui dit que lui, il a trop eu la passion de la guerre et qu'il faudra qu'il soit un roi pacifique. Finalement, il regrette.
Vous croyez tout savoir sur Louis XIV. Vous vous trompez. Saviez-vous, par exemple, qu'il a lancé une mode, celle de la fistule? Pas forcément à suivre. Hein. Saviez-vous qu'il était...
De la fistule, vous êtes sûr?
Bling, bling, je vous assure.
Allons
Louis
bon.
XIV, c'est ça m'intéresse, histoire, qui dit ça. Ça donne envie de revenir
ben
hein,
oui,
tout de suite
sûr.
Dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir dans la curiosité, on vous raconte l'incroyable vie de Louis XIV, le roi soleil, 72 ans d'un règne incroyable qu'on a passé évidemment un peu rapidement, mais si vous voulez en découvrir plus, lisez le Ça m'intéresse histoire en kiosque dès maintenant. Nous sommes avec Cyrielle Lemoigne, journaliste. Vous nous avez concocté ce dossier passionnant. Alors, avec la disparition de Louis XIV, se termine ce qu'on appelle le grand siècle. Ça veut dire qu'il a côtoyé, il a encouragé qui, Louis XIV, pendant ce siècle? Ce XVIIe siècle.
Alors effectivement, Louis XIV a pas simplement côtoyé, il a été le mécène de grands artistes, Molière, Boileau, Racine, La Fontaine, Lully. Tous ces gens-là ont été sponsorisés réellement par Louis XIV, qui savait s'entourer de très grands talents. C'était un homme de goût, un vrai dénicheur de talents. Et le grand siècle effectivement correspond à cette période d'effervescence où effectivement ces artistes, c'est très intéressé, hein, ils sont là pour faire la propagande de Louis XIV, et ils nous ont laissé les grandes œuvres de la littérature et de l'art français.
Vous disiez tout à l'heure que c'était pas un bon élève, mais qu'en revanche il aimait en quelque sorte la fête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se mettait en scène,
oui,
sur scène.
Il se mettait sur scène. C'était lui-même. On sait que il faisait des ballets, il dansait superbement. Il a même tenu le rôle prémonitoire à 15 ou 20 ans du Soleil levant dans un ballet intitulé Le Ballet de la nuit. Donc vraiment, c'est l'astre autour duquel on tourne et qu'on admire, quoi.
On va jouer à un petit jeu, Thomas. Le saviez-vous, dans le Ça m'intéresse histoire, vous avez une double page passionnante avec plein de petites entrées comme ça. Alors par exemple, est-ce que Louis XIV était beau?
Alors oui, selon les courtisans, mais en fait pas vraiment si on écoute les hommes qui l'ont côtoyé. On a un bon témoignage d'un artiste italien, un artiste romain qui s'appelle Le Bernin, qui était venu à la cour pour réaliser son buste royal. Donc il l'a vraiment observé sous toutes les coutures. Alors apparemment il avait une joue qui était différente de l'autre, un œil différent de l'autre, il avait une verrue sur le nez, il était vraiment pas beau, quoi.
Bon. Alors que les portraits royaux sont évidemment magnifiques.
Oh, ça dépend
pas
des
forcément.
Goûts, on va dire.
On était à l'exposition Velázquez il y a quelques jours au Grand Palais, et c'est vrai que quand on regarde les portraits que Velázquez a pu faire de la cour royale d'Espagne, on se demande toujours quelle est la part de vérité et de commande. Il fallait forcément faire les familles royales les plus belles possibles.
Est-ce qu'il était grand, Louis XIV?
Oui. Alors selon...
Je suis à fond sur Louis XIV. Il était moche, ça c'est fait. Voilà. Grand ou petit?
Bah, il était grand. Si vous aimez les grands, ça va. Il faisait 6 pieds de haut, ça correspond à 1m80. C'est la description du curé de la cour, du curé de Versailles.
Ce qui est gigantesque pour l'époque.
Ce qui est gigantesque, mais en fait il trichait un peu parce qu'il avait une perruque et il avait des talons à ses chaussures.
Oui,
il gagnait à peu près 15-20 cm quand même.
Donc alors le saviez-vous, Thomas, Louis XIV était bling bling?
Vous êtes sûr qu'on disait ça comme ça?
Je crois bien, oui.
Ouais, il aimait bien ça.
Bling bling, mais...
Tout ce qui brille, c'est ça.
Exactement, il portait... on a une description, par exemple, d'une visite des ambassadeurs de Perse. Il a, à l'époque, il a 75 ans, et il porte autour du cou une rivière de diamants. Il y en a pour 12 millions de livres, rien qu'autour de son cou.
Ah oui, effectivement, on peut dire qu'il était bling bling. Alors à ce niveau-là, Cyrielle Lemoine, vous publiez ce dossier spécial Louis XIV dans Ça m'intéresse histoire, évidemment parce qu'on célèbre le tricentenaire de sa mort. Hein. Il est mort, je le rappelle, le 1er septembre 1715. Du coup, on va parler de sa santé. Il a régné 72 ans, mais dans quel état?
Bah, c'est un peu un exploit qu'il soit arrivé jusque-là, parce qu'il était un peu mal en point. Il souffrait de dysenterie chronique. Alors la dysenterie chronique, c'est quand même des diarrhées sanguinolentes, qui étaient dues à son appétit vorace.
Rentre dans les 5 minutes qui donnent de l'appétit.
C'est ça, exactement.
J'espère
que tout le monde est devant son plat. Il avait effectivement aussi la gonorrhée. La gonorrhée, c'est la chaude pisse. Donc une maladie qu'il avait contractée à 17 ans au contact de la dame de cour qui était chargée de son éducation sexuelle.
Mais il avait tout ça en même temps, c'est ça?
Là, c'était 17 ans, ça c'est à peu près la première. Ensuite, on sait qu'il avait le ver solitaire, un ténia, puisqu'on a des comptes rendus sur ses selles. Il avait aussi la goutte, donc il souffrait énormément du gros orteil. Il était souvent obligé de se véhiculer à bord d'un fauteuil roulant. Et il avait aussi des gros problèmes dermatologiques, d'énormes cicatrices sur la peau, sur tout le corps. Parce que figurez-vous que jusqu'à ses 8 mois, il n'a eu aucun bain, puisque c'était à l'époque, on ne baignait pas les bébés. Donc c'était un peu ça.
Même dans les familles royales.
Exactement.
Ouais. Surtout peut-être même.
Voilà. Et surtout en 1685, il se fait enlever une carie. Il tombe malheureusement sur un dentiste un peu maladroit qui lui arrache la moitié du palais. Et donc il se retrouve...
Rien que de vous entendre dire
permanence.
Ça fait mal.
Mais il était fort stoïque, le roi Louis XIV.
Ouais. Donc il a un trou dans le palais, c'est ça ?
Dans le palais, voilà. Et donc il régurgite tout le temps par le nez. Donc c'est des sécrétions qui montent de la bouche vers le nez. Et quand il se disputait avec sa favorite, Madame de Montespan, et qu'elle était en rage, elle lui lançait à la figure, mais de toute façon, tu pues de la gueule.
Dans ces termes-là,
ce qu'on peut imaginer. Vous voyez, on vous a pas menti, c'était vraiment la minute ragoûtante de la curiosité.
Et le point quand même, c'est que Louis XIV avait une fistule. Alors ça, on en a beaucoup parlé, c'est pas pour être indiscret, mais c'est quand même une des premières opérations.
C'est la première.
La première opération de chirurgie. Donc on l'opère de la fistule. C'est quoi la fistule?
La fistule, c'est sympathique, c'est un abcès à l'anus, donc ça fait horriblement mal. Et donc effectivement, en 1686, les chirurgiens lui disent, bon écoutez, là on peut plus éviter l'opération. Ils sont quand même la main, hein. ils inventent un appareil recourbé et tranchant. Ils se font la main sur des condamnés à mort, donc en fait tout va bien pour Louis XIV, ils se sont bien entraînés. Et donc le jour J, il convoque quand même son ministre, sa femme, son premier médecin. En fait, les VIP qui vont assister à l'opération, il n'y a pas d'anesthésiant quand même, hein, je vous le rappelle. Et le roi reste stoïque, il se fait arracher la fistule, et il lâche juste un petit « Oh mon Dieu !»
Oh bah ça va, c'est sobre. Ouais. Enfin, ça, c'est en tout cas ce que la légende a écrit. Est-ce que c'était un grand travailleur? Vous nous avez dit que ça avait été un mauvais élève, mais est-ce qu'ensuite, pendant son règne, Louis XIV travaillait beaucoup?
Oui, il travaillait énormément. On peut évaluer qu'il travaillait environ 9 heures par jour, dimanche compris. Ça fait des grosses semaines de 60 heures à peu près.
Est-ce qu'il a eu des enfants, Louis XIV? Beaucoup d'enfants en dehors de...
Les officiels et les autres, voilà, c'est ça?
Alors légitime, il en a eu 6 avec Marie-Thérèse et il a eu 11 bâtards avec ses maîtresses.
On dit aussi que Louis XIV a usé beaucoup de nourrices. Il était gourmand?
Il était gourmand et en plus la légende dit qu'il est né avec une dent. Donc les nourrices devaient un peu souffrir et il aurait jusqu'à ses 2 ans usé 8 nourrices.
D'accord. Alors Louis XIV recevait sur le trône. Quand je dis ça, il y a un double sens.
Il y a un double sens, oui. Il recevait sur sa chaise percée. Et figurez-vous que c'était un privilège que de voir le roi, le plus grand roi du monde, faire ses besoins sur sa chaise percée, puisqu'il fallait avoir un brevet d'affaires, un sésame qui était très difficile à avoir. Et donc, on avait le privilège de converser avec le roi en train de faire ses besoins.
Mais ça, c'était propre à Louis XIV?
C'était
d'autres
propre.
Rois. Mais donc, c'est lui qui avait inventé ça?
C'était, oui, en fait, c'était courant à l'époque. Les grands de ce monde, pas tout simplement, pas forcément Louis XIV, recevaient couramment sur leur peau, en quelque sorte.
Oui, d'ailleurs, j'y pense qu'il y a une scène très drôle de la pièce Le Système, qui raconte l'histoire de Monsieur Lasse, qui était un Écossais qui a inventé le billet de banque, qui se joue en ce moment à Paris avec Stéphane Guillon, Éric Métayer et Laurent Deutsch. Et il y a une scène où le régent, effectivement, reçoit sur son trône. Et le trône, c'est une map monde, imaginez, qui s'ouvre, c'est la surprise. Et toute la salle hurle de rire en voyant le régent qui s'assoit sur le trône. Voilà, c'est la petite histoire du soir.
On pourrait faire l'émission sur le trône, ça serait pas mal.
On mérite ça. Ben voilà, on aura tout su et tout appris sur Louis XIV. Merci beaucoup.
Merci Cyrielle Lemoine. Et puis en kiosque, ce savoureux et passionnant, ça m'intéresse, histoire et plein d'autres histoires à découvrir sur le Roi Soleil.
Vous écoutez RTL.